Bonsoir. Le ministre de la Santé publique a déclaré hier lundi l'épidémie de fièvre jaune dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Félix Kabangé fait état de plus de 65 cas de fièvre jaune confirmés en RDC, dont 5 décès. Pour faire face à cette situation d'urgence, la RDC demande l'appui de l'OMS et tous les autres partenaires pour l'obtention rapide du vaccin anti-amaryl. Comment analyser cette situation et que faut-il pour prévenir ce genre d'épidémie en RDC? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Dr Benoît Kébéla. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur chargé de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. Maître Joseph Patilendo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes initiateur de l'opposition scientifique, une plateforme de l'opposition. Docteur Richard Moukalengue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes merci, vous êtes spécialiste en santé publique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'épidémie de fièvre jaune déclarée dans 3 provinces de la RDC, notamment les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Le ministre de la Santé publique, il a déclaré ce lundi à Kinshasa, fait état de plus de 65 cas de fièvre jaune confirmés en RDC, dont 7 cas autochtones. Pour faire face à cette situation d'urgence, la RDC demande l'appui de l'OMS et tous les autres partenaires pour l'obtention rapide du vaccin anti-amaryl. On écoute Félix Kabangé Numbi, ministre de la Santé publique, au micro de Michel Kifindangori.
À ce jour, nous sommes à 67 cas, parmi lesquels 65 cas sont liés à l'épidémie actuelle en Angola et 2 cas qui sont totalement indépendants. Mais sur les 65 cas, 7 cas sont autochtones et 8 cas sont des cas importés. Sur les 65 cas confirmés, nous avons eu 5 décès. Au vu de ce tableau épidémiologique, je déclare ce jour que la République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune. C'est ici, pour moi, l'occasion de rappeler encore une fois à nos populations d'observer les mesures suivantes. Couvrir tous les récipients d'eau de façon à ce que les moustiques ne puissent pas s'y reproduire. Utiliser les moustiquaires par les membres de toute la famille pour dormir.
Pendant ce temps, dans la province du Kwango, 115 cas de fièvre jaune sont déjà enregistrés, dont 8 confirmés par l'INRB. Parmi tous ces cas, on note 14 décès dans 3 de 6 zones de santé touchées par cette maladie. Confirmation du chef de division provinciale de la santé du Kwango. La société civile Force Vive de Kwango se dit inquiète. Fabien Kambizi nous en dit plus.
D'après Dr Pierre Mouela, c'est depuis quelques semaines que cette épidémie de la fièvre jaune sévit dans cette partie de la RD Congo. Au total, 115 cas dénombrés dans 6 zones de santé du Kwango frontalière avec la République de l'Angola. Mais seulement 8, dont 7 cas importés d'Angola et 1 cas autochtone, ont été confirmés par l'INRB. Ils sont localisés dans les 3 zones de santé, dont 1 cas à la zone de santé de Kajiji, 1 à Kisanji et 6 cas à Kayemba. Selon toujours les chefs de division de la santé du Kwango, la prise en charge de ces cas est assurée par une équipe venue de Kinshasa et composée du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la santé OMS, du Médecins sans frontières ainsi que d'autres partenaires. Pour lui, il faut nécessairement des moyens logistiques importants pour mener une grande campagne de sensibilisation sur la prévention en vue de baisser la panique qui a gagné la population de cette contrée. Avis partagé par la société civile Force Vive de Kenge qui s'inquiète de la présence de cette fièvre jaune dans leur province. Kikuit Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Merci Fabien Kambizi. Docteur Benoît Kébéla, vous êtes directeur chargé de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. Docteur, cette émission, vous le savez, également pédagogique. C'est quoi la fièvre jaune et quels en sont les symptômes?
Ok, merci beaucoup. La fièvre jaune, vous pouvez l'appeler fièvre et puis jaune. C'est pourquoi? Parce que vous avez la fièvre plus la coloration jaune des yeux. Ou ce qu'on peut appeler des muqueuses au niveau des yeux, au niveau même des lèvres. On appelle la fièvre jaune. Mais si nous ne devons pas oublier, tout cas d'ictère, fièvre plus ictère n'est pas la fièvre jaune. Parce qu'il y a plusieurs plusieurs cas de fièvre, petit jaune, qui sont plusieurs étiologies. Vous avez les cas de malaria et les paludismes. Chez les enfants, vous avez la fièvre plus la coloration, on appelle le jaunisme, qui est due à, vous avez une destruction massive des globules rouges. Un enfant de paludisme ou un enfant SS, c'est la même chose. Dans les cas surtout des hépatites, on a là, vous avez la fièvre plus la coloration jaune.
Alors comment différencier?
Laissez-moi continuer.
Allez-y, je vous en prie.
C'est pour cela que dans la surveillance, si nous avons mis tout cas suspect de fièvre jaune, c'est-à-dire que fièvre plus la coloration jaune, ceci pour qu'on puisse ne pas rater les cas. Et c'est ainsi que quand on devant ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait les prélèvements, on envoie au laboratoire pour la confirmation des renouveaux de nos structures, que ce soit les infirmiers, des centres, ils savent faire ça. Je prends l'exemple comme avec les 115 cas qu'il a dit, bien sûr, il y a 115 cas de suspicion. Surtout quand vous avez dans les contextes épidémiques, il y a 115
cas de suspicion. Dans la province du Congo.
Le Congo, 115 cas de suspicion. Parmi ces 115 cas, il y a beaucoup qui ne sont pas la fièvre jaune, qui sont seulement, on voit la fièvre plus le coloration jaune. C'est ainsi que pour la confirmation, au niveau des laboratoires, il y a eu seulement environ 7 cas, 8 cas qui sont confirmés, qu'on a confirmés. Parmi ces cas, ce sont des cas qui viennent de l'Angola, puisque qu'on parle même pour qu'il y ait fièvre jaune dans un milieu, il faut vraiment la fièvre, mais aussi, il faut la transmission et surtout, il faut des cas autochtones, c'est-à-dire quoi? Un cas qui ne s'est jamais déplacé. Vous avez un cas qui ne s'est jamais déplacé, une personne qui s'est un peu déplacée, quand il présente la fièvre plus la coloration jaune, on fait les examens, on prouve qu'il est positif, et si vraiment celui-ci ne s'est pas déplacé, c'est là que ça inquiète, on dit que c'est un cas autochtone. Quels sont les signes? Les signes de la fièvre jaune à ce début ne sont pas tellement différents avec les signes du paludisme. C'est pour cela que on peut passer à côté. Puis ce n'est pas différent, c'est la même chose. Il faut nécessairement aller dans le laboratoire pour les partager. Sinon on peut passer à côté. Puis deux, c'est pas tous les cas de fièvre jaune, donc on appelle dû au virus amarille. Tous ces cas ne se colorent pas en jaune. C'est ça le problème. Vous avez 50% qui va jusqu'à la coloration des yeux jaunes. Hein, si je peux encore bien vous expliquer. Parmi les signes, il y a deux phases. Il y a la première phase qu'on appelle, c'est la phase des signes généraux que vous avez. Vous avez les maux de tête, vous avez la fièvre, vous avez les fatigues, les courbatures. Mais là, il y a la deuxième phase. La première phase fait 3 à 5 à 6 à 7 jours. Maintenant, la deuxième phase, qu'on appelle la phase toxique, c'est la phase où il y a l'apparition de la coloration jaune, où il y a l'apparition du syndrome hémorragique. Parce que la fièvre jaune est considérée comme une fièvre hémorragique. Avant Ebola, c'était la fièvre hémorragique qui était connue, c'était la fièvre jaune.
Et donc, la population qui doit nous suivre doit faire très attention pour ne pas confondre les cas.
Oui, c'est-à-dire que c'est ce que nous disons à la population. Surtout actuellement avec le contexte épidémique qu'on a en Angola, quand vous avez un membre de la famille, quelqu'un qui a la fièvre, et puis vous avez, de cette coloration jaune, ne vient pas à mes moments, hein. Quand vous avez la fièvre, souvent c'est quand la fièvre chute que vous avez la coloration jaune. Quand quelqu'un a la fièvre, plus la couleur jaune de ses yeux, là il faut vraiment aller un peu le plus vite possible au niveau des centres de santé, l'hôpital, qu'on fasse le prélèvement pour savoir si c'est réellement la fièvre jaune. Bon, je veux aussi répondre à la question, c'est dû à quoi? La fièvre jaune est dû à un virus qu'on appelle le virus amarille. C'est un virus qu'on appelle arbovirus. Pourquoi on l'appelle arbovirus? Parce que c'est un virus qui est transmis par un vecteur. Les moustiques, Aedes. C'est différent avec, par exemple, nous avons l'Ebola que vous connaissez, qui est transmission directe. Mais celui-ci doit passer par un vecteur. Les moustiques vous piquent. Les moustiques doivent piquer un homme malade pour piquer un homme sain. Mais quand il pique un homme malade, il faut à ces moustiques 12 à 21 jours qu'il soit infectant. Si avant ça, il ne peut pas. Prenons qu'il pique un homme malade maintenant. Une semaine après, il pique un homme qui n'est pas un homme sain. Il ne peut pas transmettre. Parce qu'il lui faut 12 à 21 jours qu'il puisse infecter la maladie, qu'il soit infectant.
Alors, docteur, on sait que depuis pratiquement fin 2015, cette maladie sévissait déjà en Angola. Elle a fait beaucoup de dégâts. Quelles ont été les mesures préventives pour qu'elle n'arrive pas en RDC?
Mais je vais vous répondre avec la fièvre jaune chez nous aussi. Il ne faut pas prendre
l'Angola. Nous sommes dans une zone endémique.
Nous sommes la RDC. C'est un pays à risque. La fièvre jaune. Nous avons connu des épidémies, je vous rappelle, en 2010, Nous avons connu une épidémie dans les Bas-Suélé, dans les de Kitoulé. Nous avons connu une épidémie en 2013. On a connu une épidémie dans Alomami. C'était vers Kabinda, les trois régions de santé. En 2000, même année, nous avons connu l'épidémie à Malembankou. Deuxièmement, on a connu en 2014, je crois, en 2015, on a connu l'épidémie dans les Bas-Suélé, où vous avez bout à bout. Pourquoi? Puisque ce sont les fièvres jaunes qui est ce virus amaril qui circule dans les régions forestières. Donc nous ne pouvons pas dire, mais...
Y a-t-il eu des mesures préventives?
Je vais arriver.
Parce que je vais donner la parole tout à l'heure à Maître Patilendo.
Partout, j'ai cité, il y a eu des mesures préventives, on a dû intervenir, vacciner. Parce que je vous dis que la première mesure, pour éviter l'épidémie de la fièvre jaune, c'est avoir un bon système de surveillance qui peut vous permettre de détecter d'une façon précoce les premiers cas pour l'intervention rapide.
Merci.
Pour éviter une grande flambée d'épidémie.
Merci, docteur.
Comme ce qui s'est vu en Angola.
Merci, docteur. Je redonne la parole tout à l'heure. Maître Joseph Patilendo, vous êtes initiateur de l'opposition scientifique, une plateforme de l'opposition. Comment vous analysez cette situation?
Nous sommes tout à fait désolés et même anxieux de nous rendre compte que l'épidémie refait encore surface avec acuité dans notre pays. Et vous savez, dans tout cela, nous pensons que, nous l'avons toujours dit, il est plus que temps que nous revoyons notre système de gouvernance. Et ici, à travers ces cas, et tel que nous venons de suivre brillamment les docteurs, nous nous sommes rendus compte qu'il y a effectivement des problèmes de gouvernance sanitaire au Congo. Et vous savez, il y a ce que nous venons de noter, à bien suivre les docteurs, c'est que il y en a qui sont des cas qui sont autochtones, il y en a qui se sont déplacés. Et ici, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour ce qui s'est passé en Angola, voyez-vous. Et que ce ne serait pas vraiment quelque chose d'encourageant pour le Congo que cette fièvre soit pratiquement imposée par notre perméabilité de frontières. L'Angola connaît ces cas, l'Angola, la fièvre jaune sévit en Angola, il y a certains d'entre nos compatriotes qui en périssent déjà. Mais nous avions noté avec beaucoup de regret le silence du gouvernement congolais. Or, c'est une fièvre qui pouvait s'éviter en amont comme en aval. En amont, c'est-à-dire quoi? Dès lors que la sonnette d'alarme était déjà tirée à partir de l'Angola, eh bien, il y avait tout aussi de raison qu'à notre niveau, nous puissions renforcer le système de surveillance, tel que vient de dire le docteur, de surveillance sanitaire au niveau de nos frontières. Mais là, cela n'a pas été le cas. Nous savons de quoi nous parlons. La frontière du côté de Kwango, elle est plus que perméable. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans ces cris d'alarme du gouvernement. Bon, nous pensons que ces cas puissent en fait servir de l'élément qui puisse remettre en cause notre gouvernance de manière à ce que nous soyons à même de pouvoir donner des répondants cohérents aux problèmes qui nous frappent.
Maître Patilendo, sur le site de l'OMS, on peut lire ce qui suit. La fièvre jaune est endémique sur tout le territoire ou dans certaines régions de 47 pays d'Afrique et d'Amérique 34 exactement et d'Amérique latine 13. Une modélisation basée sur des sources de données africaines a permis d'estimer la charge de morbidité imputable à cette maladie. En 2013, il y a eu 84 000 à 170 000 cas graves et 29 000 à 60 000 décès. Donc ce n'est pas que l'apanage de la RDC.
Non, nous n'avons pas dit cela. Mais vous savez, nous n'avons pas dit que la fièvre jaune elle est made in RDC. Mais du moins, chaque pays met en place un système de couverture sanitaire de manière à ce que les différentes épidémies ne puissent pas saper davantage la vie des citoyens. Vous avez parlé du taux de mortalité. Nous avons suivi aussi le ministre quand nous en sommes déjà au début en fait de ces cas. Et bien, nous en sommes déjà 67 morts. Et si pas 65, c'est déjà trop. Voyez-vous, c'est déjà trop. Donc, nous pensons qu'il y a lieu de pouvoir renforcer le système de couverture sanitaire. Il y a lieu de pouvoir renforcer les mécanismes de suivi et de surveillance de manière à ce que nous puissions être à l'abri, même si nous sommes dans une zone qui nous permette pratiquement de connaître de telles calamités de santé, mais nous pensons que cela n'est pas une raison pour que nous ne nous soyons pas davantage prémunis contre certaines perméabilités.
L'assainissement de l'environnement est un élément important et on sait que c'est un problème sérieux en RDC notamment.
Ben, vous savez, quand vous parlez, bon, là, nous rentrons dans la gouvernance, comme nous l'avons dit. Quand nous parlons du ministère de la Santé publique, vous savez, dans le ministère de la Santé publique, il y a deux aspects fondamentaux sur lesquels on n'insiste pas trop en RDC. Il y a d'abord la santé, prise comme système de protection, de surveillance de la vie des citoyens dans un espace donné, mais il y a aussi l'hygiène, voyez-vous. Mais ici, dans notre système de santé publique, on parle plus de la santé en termes de couverture médicamenteuse de la population, mais on met de côté l'hygiène. Et vous savez, l'épidémie, l'endémie, et s'accompagne toujours de certaines défaillances hygiéniques. Voyez-vous, le docteur a parlé de mesures que le gouvernement a prises. Bon, nous saluons cela. Mais la couverture des aliments, ainsi de suite, mais il faut aller avec nous dans le marché de la ville, dans le marché du pays. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on sert à la population qui ne sont pas protégées. Voyez-vous,
N'y a-t-il pas ce niveau-là, Maître Patilendo, une responsabilité également de la part de la population qui doit se prendre en charge aussi?
Non, vous savez, ne chargeons pas trop la population. Le gouvernement a le devoir d'éduquer et d'informer la population. Voyez-vous, ça, il faut quand même qu'on se le dise.
Chacun devrait quand même balayer devant sa parcelle.
Ah ben oui, vous savez, on peut
balayer.
Et ne pas attendre
le président de la République.
Mais dans tout le pays, le service hygiène n'a jamais été une structure de privé, de particulier. Ah non, c'est la rentre dans les attributions régaliennes de l'État, voyez-vous. À notre époque, quand nous grandîmes, il y avait des avions qui pourchassaient en fait le moustique à travers la ville. On ne voit plus cela. Et ici, le taux de salubrité publique, mais laisse pratiquement indifférent le gouvernement. Donc, les problèmes pouvaient bien être analysés en amont, en renforçant les mécanismes de surveillance hygiénique et en aval, comme le docteur a dit, en prenant toutes les précautions possibles pour que l'environnement n'impacte pas sur la santé de la population.
Docteur Richard Mukalenge, vous êtes spécialiste en santé publique. Comment vous analysez cette situation également? Vous avez suivi docteur Kebela et maître Patilendo.
Oui, je salue docteur Kebela et maître. Je vous salue aussi. Alors, voilà comment moi j'analyse cette situation. En considérant le nombre de cas qu'on a appelés venant de l'extérieur, parce que les cas autochtones sont minimes, moi je considère ça d'abord, c'est une agression sanitaire venant de l'extérieur. Ça signifie quoi? Les Congolais sont sortis cherchant le bien-être en allant en Angola. Ils sont partis sans être vaccinés. Et ils nous ont ramenés, ce qu'ils sont allés chercher là-bas, plus la fièvre jaune. Ça, c'est un. Et deuxièmement, depuis que l'alerte a été donnée, en disant qu'il y a la fièvre jaune en Angola, cette fièvre a eu le temps de se promener en Angola pour arriver ici. C'est-à-dire que je pose la question, où est la stadoc sanitaire? Ça existe où? Est-ce que c'est un club de chef d'État pour se congratuler, s'embrasser, ou ils traitent nos problèmes? Troisièmement, c'est intéressant d'apprendre que la RDC a fait appel à l'OMS, c'est très bien. Mais on avait un centre au Katanga qui produisait les vaccins. Qu'est-ce que ce centre est devenu? Ce n'est qu'une pièce de musée. Quatrièmement, c'est bien de prendre des mesures. On a pris des mesures. Et il faut assainir le milieu, couvrir ceci, couvrir cela. C'est très bien. Ce n'est pas mauvais. Mais les meilleurs gîtes larvaires se trouvent dans nos rues. Nous avons des décharges incontrôlées, constituées à 90% des sachets plastiques, qui sont des récipients imperméables. C'est là où aussi il faut regarder. Chaque rue en recèle deux ou trois. Imaginez un peu la ville de Kinshasa avec ses 10 millions d'habitants et chaque rue recèle des gîtes relevés au niveau des décharges non contrôlées. Donc, nous sommes dans une catastrophe sanitaire en vue. Cinquièmement, il faut aussi considérer la tuyauterie de régie des eaux. Au niveau de chaque rue, dans ma rue, il y a 3 points de soignement. Vous n'avez pas de l'eau dans les maisons, mais vous avez de l'eau dans la rue. Donc, régie des eaux, de l'eau, qui vont enrichir nos sites, nos gîtes larvaires pour donner le temps à l'Aedes aegypti de se multiplier et d'infester les Congolais, d'alourdir la catastrophe. Sixièmement, devant la querelle politique actuelle qui lasse les gens, qui fatigue la réflexion, qu'est-ce que le Congolais peut faire demain devant une catastrophe comme ça en vue? C'est ça mon analyse.
Docteur Richard, quand vous dites que nous sommes dans une catastrophe sanitaire, est-ce que vous ne serez pas en train d'effrayer la population? Est-ce qu'on n'est pas dans l'exagération là?
Non, je mets la barre très haut pour pousser la réflexion très haut et amener les sportifs à des actions de grande envergure. Si je mets la barre très bas, les gens vont dormir. C'est ça le problème. C'est-à-dire quoi? Les moustiques, nous les avons. Ceux qui viennent avec la maladie de l'Angola sont là avec nous. Comment peut-on ne pas mettre la barre très haut, que nous savons aussi que les moustiquaires imprégnés se trouvent chez les pêcheurs aujourd'hui. Là, je salue le professeur Moutamboué, un amoureux de Radio Okapi, dans l'émission Okapi Service, qui en a découvert parce qu'il est spécialiste de l'écologie marine et aquatique. Il a trouvé beaucoup de moustiquaires imprégnés dans nos rivières, cours de fleuves, affluents, etc. Donc, les moustiquaires imprégnés ne se trouvent pas dans nos maisons. C'est ça. Les gens ont fait leur business à ce niveau-là. Comment ne pas porter la barre très haut? C'est ça le problème, parce que ce n'est pas une maladie qui caresse.
Si je vous comprends, docteur Richard, les responsabilités sont partagées, tant au niveau de l'État que de la population, et qu'il y aurait un sérieux problème de sensibilisation et d'éducation.
Ça, c'est vrai. Mais le grand problème d'action, on peut sensibiliser, mais il faut qu'il y ait des actions. Les actions doivent partir de la base. C'est bien de commencer les actions dans les maisons, mais dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos communes, on va faire quoi? Lorsque nous avons des décharges incontrôlées qui sont là, des années et des années. Et ça, c'est le problème.
Merci, docteur Richard Mukalenge. Docteur Kebela, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, sur Kivu.
Ndikisa Kulimu Chevari, c'est de Kibukavu, province du Sud Kivu. La déclaration du ministre de la Santé est comparable à l'arrivée du médecin après la mort du patient et prouve que le gouvernement congolais continue à courir après les événements, d'autant plus que le ministre vient de songer à la mise en quarantaine qui isolerait la communication entre ces provinces déjà touchées et le nord de l'Angola, ainsi qu'au vaccin après tous ces cas de maladies et de morts. Ainsi, je veux que l'invité dise pourquoi a-t-on attendu que l'épidémie se soit suffisamment répandue pour la mise en place des précautions nécessaires et s'il ne trouve pas qu'il faut toujours mieux prévenir que guérir.
Docteur Kedela.
Oui, bon, merci beaucoup. Mais je suis désolé quand même des réactions des auditeurs. Hein. Je crois que les gens, s'ils pouvaient suivre ce qu'on fait, monsieur la santé, ne pouvaient pas dire ça.
Peut-être que vous ne communiquez
non,
pas
non.
suffisamment.
Non, on communique suffisamment. Je crois qu'il ne faut pas attention. L'épidémie en Angola a commencé au mois de décembre. Une fois on est au courant, nous avons envoyé un système de surveillance qui existe déjà depuis 2000. C'est grâce à ce système même que nous sommes capables de détecter le plus vite possible quand on a des problèmes d'Ebola, un exemple, et nous sommes parmi les pays au monde qui gèrent bien l'Ebola. Parce qu'on a un système de surveillance qui est performant. Ce système, une fois on est au courant, on a renforcé, nous avons un programme aux frontières, la quarantaine. Et puis on nous voit au niveau des pays, nous avons renforcé le système de surveillance, même jusque dans la communauté, c'est-à-dire qu'au centre de santé, nous avons donné les instructions qui devant tout cas de fièvre avec avec fièvre jaune. Maintenant, il faut plus faire mes recherches actives. C'est ce qui fait, ça je vous dis, c'est ce qui fait, jusqu'aujourd'hui, qu'on a eu, on est arrivé à 7 cas autochtones. Pourquoi? Parce qu'on y travaille jour et nuit, devant tout cas qui arrive. Parce que c'est quoi la fièvre jaune? La fièvre jaune, quand il vient, quand vous avez les cas importés, un cas importé, vous faites une investigation, et quand il est importé, on fait l'examen, tous étaient venus, ils étaient en période hystérique, donc ils n'étaient pas, ces cas n'étaient pas dangereux pour la transmission. Puisque même Dr Mukalenge laissait, même les portes, quel infectiologue, la fièvre jaune, à la virémie, deux jours avant les signes, et après les signes, quand vous avez l'itère, il n'y a plus de virémie, parce que les anticorps neutralisent toujours le virus. C'est ces cas qu'on a eu. Parmi ces cas, le travail fait, on a pu faire de sortir 7 cas que nous avons dit, ce sont parmi les cas que nous pensons autochtones. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en faisant tout autour de ces cas, on n'a pas eu des antécédents qui sont sortis.
Donc vous pensez que ce n'est pas encore la catastrophe?
Ce n'est pas la catastrophe. Voilà ce qu'on a fait, qu'on a eu. Nous avons vacciné le mois passé, parce que toutes les zones de santé qui avaient des problèmes au niveau du Congo central. On les a vaccinés. Mais maintenant, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes avec les cas qu'on a eu à Kinshasa, deux ou trois cas, on s'est dit ceci. On a dû vacciner dans les quartiers autour de ces cas. Il y a 12 millions d'habitants. Eh bien, je vous dis, au niveau international, il n'y a pas 12 millions de vaccins, de doses. Non.
Et donc, il y a un problème aussi.
Parce qu'il y a un problème au niveau international. Souvent, le vaccin contre la fièvre jaune, la quantité n'est pas très élevée. C'est pour cela qu'il y a un organisme ICG. On ne peut pas donner le vaccin comme ça. Et puis la stratégie la meilleure, quand vous avez une épidémie de fièvre jaune, bien sûr on peut faire les luttes antivectorielles, mais la stratégie la meilleure, c'est la vaccination.
Mais docteur Richard, raison, vous avez toujours la parole.
Raison pour laquelle depuis 2003 à FDC, nous avons introduit la vaccin contre la fièvre jaune chez l'enfant au père.
Mais docteur Richard Mukalenge disait tout à l'heure qu'il y avait un centre au Katanga qui s'occupait des vaccins.
Qu'est-ce qu'il est devenu? Le centre au Katanga ne pouvait même pas fabriquer les vaccins contre la fièvre jaune. Jusqu'à il y a une seule fièvre. Parce que pour une fièvre jaune, ce n'est pas facile. Pour le moment d'ailleurs, nous avons besoin de plus. Il y a 3 millions de doses. Maintenant, avec la déclaration du ministre, au niveau international, on va en fabriquer plus. L'Angola qui avait une forte épidémie qui est là, il avait besoin de 7 millions de doses. On lui a donné seulement 3 millions. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a ceci. Pour nos pays, ce sont des pays endémiques à fièvre jaune, parce que nous avons l'écosystème favorable. Vous ne pouvez pas faire le mal. Mais pour éviter, il faut avoir un bon système de surveillance qui vous permet de détecter le plus vite possible les premiers cas, pour que ça puisse faire
se propager.
Avoir une grande extension. Et c'est ce qu'on a fait. On a vacciné le Congo central, maintenant pour la ville de Kinshasa, nous partons par phase. On va par phase, par étape. On a vacciné quoi vous appelez. Le mois passé, on a vacciné, je dois être une et quoi comme ça. Je pense que la fois prochaine, nous allons vacciner. Parce qu'on ne fait pas prendre 12 millions d'habitants.
Alors, docteur Kebela, Maître Patty Lendo et docteur Richard Mukalenge l'ont dit, il y a un sérieux problème de salubrité au niveau de la RDC. Il y a d'ailleurs la structure qui s'occupe de la salubrité au niveau de Kinshasa qui dit ne pas avoir des moyens. On voit comment les poubelles deviennent des montagnes d'immondices. Est-ce qu'on va s'en sortir?
Moi, je vais vous répondre à Lisa Ceci. Hein. Moi, je parle aux gens, ou je fais, je crois que les premiers responsables, c'est nous-mêmes. Si nous sommes conscients. Pourquoi je vais vous donner un exemple? La fièvre jaune, les moustiques, vous, sont les moustiques qui sont autour de vous, qui sont dans vos maisons, parce qu'il y a un essai dans les maisons, et qui sont autour de la maison. Vous voyez la venue ici à Lingwala. Vous voyez l'avenue Mouchi. Vous voyez l'avenue Mouchi, tu peux voir il y a 2-3 ans comment c'était, quand il pleuvait. Mais maintenant, après, même l'épidémie de choléra qu'on a eue à l'année 92 à ces pays, c'était dû à cette ville. Mais après, quand le gouvernement dont on nous critique, je veux bien d'accord, je veux pas défendre le gouvernement, quand on a lancé les caniveaux, tu vois les grands caniveaux là, allez le voir.
Voilà, donc c'est de la responsabilité également
c'est
de l'État.
Il y a responsabilité de nous, la population aussi, qui nous prenons conscience. Merci. C'est nous, la population. Qu'est-ce que nous faisons autour de nos maisons? Parce que les moustiques qui vont te transmettre la fièvre jaune, ce n'est pas les moustiques qui viendra de la rue, c'est les moustiques qui est avec toi. parce qu'il a piqué ton voisin qui était infecté, qui va te piquer parce que les moustiques contre la fièvre jaune vivent avec l'homme. C'est dans la maison qu'il vit avec vous.
Maître Patilendo, on prend pour vous cette réaction.
Fikiri Tchomba depuis Bukavu dans le site Kivu. Le fait pour le gouvernement de mobiliser les partenaires pour combattre cette épidémie est une bonne chose. Mais il n'est pas une solution durable pour éradiquer les épidémies qui peuvent provenir de l'extérieur. Je pense que cette épidémie met en cause notre service de l'hygiène aux frontières qui n'est pas à mesure de contrôler les flux migratoires en matière sanitaire. Et ceci s'explique par le fait que notre gouvernement n'a jamais donné de l'importance à ce service qui pourtant est appelé à contrôler les épidémies sur nos frontières afin d'empêcher les maladies provenant de l'extérieur d'entrer au pays. Sous d'autres effets, on ne peut pas fouler le sol sans présenter au préalable la carte de vaccination à jour. Mais ici chez nous, on assiste à un laisser-aller. Voilà pourquoi on se demande à quoi sert ce service.
Maître Patilendo.
Oui, mais tout à fait, c'est ce que nous avons dit. Vous savez, nous revenons encore sur ce que nous disons tantôt, la gouvernance sanitaire. Vous savez, nous avons suivi nous tous autour de la table que s'il est vrai que la surveillance médicale en termes de lutte contre certaines épidémies, en croire le docteur, nous pouvons lui faire confiance que cette couverture-là est plus ou moins assurée à travers les frontières. Mais néanmoins, nous voyageons aussi dans ces pays. Nous savons aussi, et le docteur sera d'accord, le docteur Kébé, la Benoît sera d'accord avec nous, lui qui représente le gouvernement, qu'il y a une sorte de laisser-aller dans la surveillance hygiénique au niveau de nos frontières. Et vous savez tous comment ça se passe. On vous vend des cartes de vaccination sans que vous ne soyez vaccinés. Ça aussi, nous le savons. Et nous faisons louvre aussi par moment en tant que compatriotes, en tant que politiques au Congo. Donc, ça nous étonnerait qu'on ait parlé de la surveillance assurée au niveau des frontières à la suite de l'alarme que nous avons nous tous notée en Angola. Mais là aussi, nous pensons que dans ces pays, bon, il y a une forte dose de l'aide des dieux à avoir certaines de nos défaillances. Et aussi, l'environnement que nous avons. Mais c'est un environnement épidémiogène. Voyez-vous, la salubrité que nous avons dit. Nous voudrions responsabiliser la population. C'est bien bon. Mais encore faudrait-il que le ministère de la Santé nous dise les taux de couverture hygiénique à travers la République est de combien? S'il faut parler en termes de pourcentage. Eh bien, vous vous rendrez compte que c'est plutôt l'État. Et pour ne pas nous perdre en conjecture, il y a eu un balai dernièrement ici autour de décharges publiques entre le gouvernement central et l'hôtel de ville. Voyez-vous, nous avons tous assisté à des inondations de charges publiques et cela constitue en fait des sites larvaires, comme venait de dire Dr Mukelenge. Et ça, c'est aussi. Cela n'avait pas émis outre mesure nos autorités de la santé. Donc le problème est sérieux. Il faut que nous prenions acte de ce que nous avons accusé certaines défaillances et que nous mettions sur pied aussi bien un système de sensibilisation de la population, mais aussi nous rappelons aussi que l'hygiène publique constitue un service de l'État. Il faut que le service de l'hygiène redevienne un service efficient, un service effectif, un service réel dans la gestion de la cité. Sinon, ça ne servira à rien de pouvoir lutter contre la maladie. Ça, ce serait pratiquement une lutte en aval. Dès lors qu'en amont, on est en train de caresser tout ce qui est vecteur de maladie à travers la salubrité publique.
Deux réactions pour vous, Innocent Armand Kondoli depuis Kinshasa. Félicitations au ministre de la Santé pour la campagne de vaccination débutée dans le district de la Changou ici à Kinshasa. Que cette opération de vaccination contre la fièvre jaune puisse se poursuivre dans les autres districts afin d'endiguer cette épidémie de la fièvre jaune. Alphonse Mambo Data, le vaccin reste le moyen le plus efficace pour combattre cette maladie. Le gouvernement a bien procédé en tendant la main à l'OMS, mais j'encourage le gouvernement à sensibiliser la population pour l'hygiène de l'environnement afin de contrer cette lutte. Avant de donner la parole à Dr Richard Mukalenge, Maître Patilendo, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de prévention? Vous avez déjà épinglé la gouvernance.
Oui, mais vous savez, en termes de prévention, nous disons, il faudrait que nous donnions du contenu à ce que nous voulons dans ces pays. Nous vous l'avons dit que la santé publique emporte la santé et l'hygiène. Il faudrait que, au niveau de la gestion sanitaire de notre espace, que nous arrivions à concilier cela. Voyez-vous, nous avons le directeur de la maladie au niveau du ministère. Nous aurions bien voulu avoir aussi les directeurs de l'hygiène, s'il y a une direction de l'hygiène, nous le pensons bien, et bien pour que nous arrivions à conjuguer nos efforts de manière réflexive et à pouvoir apporter une thérapeutique de choc dans ce que nous vivons. Mais il faut ne pas perdre de vue que l'environnement dans lequel nous vivons, cet environnement-là est pathogène, cet environnement-là est épidémiogène, et nous nous demandons comment le taux de morbidité ne s'accroît-il pas.
Docteur Richard Mukalenge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Dungu.
Crispin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Ouélé. La fièvre jaune, c'est mal qui répand la terreur. En attendant la main de l'homme, c'est pour y faire face. Je crois qu'il faille une responsabilité partagée, urgente et préventive. Primo, celle d'abord individuelle. Que chaque Congolais, Congolaise, prenne précaution d'hygiène sanitaire recommandée, en évitant surtout les facteurs favorisant la contagion, notamment les masques d'assainissement quotidien de son habitat et son environnement contre les vecteurs. Secundo, celle de l'État. Pour décréter l'examen médical obligatoire et immédiat à tous dans les trois zones touchées, à savoir Kinshasa, Congo central et Kwango, puis partout en RDC. Ensuite, on exige le contrôle et les certificats médicaux subséquents dans tous nos postes de douane frontalières pour les entrées et les sorties.
Docteur Richard, est-ce que ces propositions pourraient-elles aider à prévenir ce genre d'épidémie?
Bien sûr. Surtout lorsque celui qui vient de parler parle du contrôle au niveau des frontières. Est-ce que les Congolais qui sont venus malades avaient des documents montrant qu'ils ont été vaccinés avant de sortir du pays? Celui qui sort par avion, c'est celui-là qui est vacciné. Mais celui qui sort à pied là, pour aller en Angola, il est vacciné où? C'est ça. Il y a donc défaillance au niveau de la frontière. Alors, lorsqu'il parle des responsabilités partagées au niveau des individus, bien sûr, quand il y a faiblesse dans l'attention des gens pour trouver les gîtes laveurs dans les parterres, les maisons, etc., on est responsable. Mais dans nos rues, il ne suffit pas seulement de dire service d'hygiène, qui est un service qui édite les normes, mais dans nos quartiers, dans nos rues, il n'y a plus de cantonniers. C'est ça le problème. Cette catégorie de professionnels est parti où? Le salon, on ne peut pas remplacer les cantonnages ou les cantonniers. Il faut qu'il y ait des cantonniers de rue, des cantonniers de quartier. Ils sont partis où? Les taxes que les communes amassent, c'est pour en faire quoi? Il faut qu'on retourne les cantonniers dans les rues. Chacun doit être à sa place. Les médecins à sa place, l'ingénieur à sa place, l'enseignant à sa place, parce qu'il ne peut pas rester dans la rue pour commencer à balayer. Il
fait
le travail du cantonnier. Il peut le faire peut-être le samedi, dans ce que nous appelons salon au sport. On ne remplace pas les cantonniers. C'est ça le problème. Les cantonniers sont partis où?
Docteur Richard, sur le site de l'OMS, on peut encore lire, je cite, « Depuis le lancement de l'initiative Fièvre jaune en 2006, des progrès importants ont été accomplis dans la lutte contre la maladie en Afrique de l'Ouest et plus de 105 millions de personnes ont été vaccinées. Dans le cadre de campagnes de masse, on n'a signalé aucune flambée de fièvre jaune en Afrique de l'Ouest en 2015. L'Afrique centrale, visiblement, est en retard. »
Oui, c'est pourquoi j'avais demandé la SADEC sanitaire est où? On peut aussi dire la CPGL sanitaire est où? Et puis CIRGL sanitaire est où? CEMAC sanitaire est où? Parce qu'après le Congo ici, donc l'Angola a donné au Congo, le Congo va donner à quel pays? C'est ça le problème. Donc l'Afrique de l'Ouest est mieux organisée que l'Afrique centrale et au sol.
Merci,
c'est
docteur.
Parce que les indicateurs, cette indicateur-là est à
prendre. Il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest.
Oui, docteur Kabela.
Je vais vous dire ceci. S'il n'y a plus de cas, c'est parce que les années 80, l'Afrique de l'Ouest a connu des grandes épidémies de fièvre jaune. Et il y a eu de grandes interventions de vaccination de masse, c'est pour cela que maintenant, ces années, on n'observe pas le fièvre jaune. Chez nous, ici, vous appelez
est-ce
dans
qu'on
les
peut
années...
dire que ce sont mieux organisés?
Non, c'est la vaccination, parce qu'il y a eu des épidémies. C'est comme chez nous, à Matadi. Je crois que les années 1930, il y a eu une épidémie de fièvre jaune, on avait vacciné, ça fait plusieurs générations. Comme on a vacciné maintenant, il y aura plusieurs générations, on n'aura pas de fièvre jaune. Maintenant, quand il y aura une nouvelle population qu'on appelle une population naïve en immunité, et vous aurez des cas.
Et en termes de prévention,
pour avoir la fièvre jaune, il y a trois conditions. Pourquoi nous faisons un effort en ville? Parce que la fièvre jaune au niveau rural, elle existe. Ce sont des cas où on voit des cas isolés. Parce qu'au niveau de la forêt, vous avez la circulation des virus amarilles, qui est le flavovirus. Mais au niveau, au niveau des grandes villes, il n'y a pas la circulation. Parce que pour avoir les fièvres jaunes, il faut d'abord, un, il faut avoir le virus. Deux, il faut avoir le vecteur. Et trois, le plus important, c'est la faible immunité de la population. Et cette faible immunité des populations des urbaines, des grandes villes. C'est pour cela que vous avez la grande épidémie qui est en Angola, qui est à Luanda. Parce que Luanda, c'est une grande ville où la population n'a pas d'immunité. C'est la même chose que chez nous ici. Si nous avons, parce que si nous sommes phobiques, on s'est pris à temps. On s'est pris à temps. Il y a quelques cas, c'est cette cas qu'on peut penser autochtones. Cette cas, on s'est pris à temps. Et puis, même les autres cas qui viennent. Au niveau des frontières, quand ce sont les Congolais qui étaient partis là, qui viennent malades. Quand ils viennent malades, vous n'allez pas, ils ne sont pas vaccinés parce qu'ils devaient être vaccinés là-bas. Ils sont des gens qui sont venus malades. C'est pour cela ici, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de couvrir, de vacciner les gens, que nous puissions avoir une grande masse, des gens qui sont immunisés, et ça va arrêter la circulation du virus. Donc ça n'a rien à voir que l'Afrique de l'Ouest est bien organisée. Non, ça n'a rien à voir. Alors, il suffit maintenant qu'on puisse vacciner les gens, on va faire plusieurs générations sans fièvre jaune.
Alors, docteur Kemela, oui. On va déjà conclure. Qu'est-ce que vous dites à cette population qui est en train de vous suivre en ce moment? Quel est le message que vous pouvez leur adresser?
Moi, le message que je peux adresser à la population ici, un, commençons par la population enfant. Que les parents puissent amener les enfants au PEV. Parce qu'au niveau du PEV, nous avons introduit le vaccin contre la fièvre jaune depuis 2003. S'il faut voir chez nous-mêmes les gens qui parmi les 7 ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Deux, c'est que je veux dire à la population qui devant tout cas, qui voit tout cas de fièvre plus coloration jaune, qui puisse aller au niveau centre de santé, là, ils savent ce qu'il faut faire. Et puis faire de la propriété autour de leur domicile. Et quand nous allons, quand il y a les campagnes de masse ils sont réalisés, il faut à ce moment-là qu'ils puissent aller pour se faire vacciner.
Merci, docteur. Ouais. Maître Patilendo, en guise de conclusion déjà pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Mais il faut revoir de fond en comble le système d'assainissement public à travers le pays. Et il faut que la population se rende compte de certaines failles au niveau de son gouvernement et arrive à se prendre en charge de manière à ce qu'elle puisse être immunisée contre certains fléaux dans le sens de la santé. Et de trois, au niveau de l'autorité de la santé, il faut que nous arrivions en fait à concilier la santé avec l'hygiène pour que nous ne connaissions plus de situations où notre environnement nous pousse à être malade. Et ça, ce serait quand même grave.
Et cela passe par le fait de revoir à la hausse le budget de la santé, même au budget national.
Non, mais le problème ici dans ces pays, ce n'est pas de revoir à la hausse, mais c'est aussi la discipline dans l'affectation de peu de moyens que l'on met à la disposition de la santé. Là aussi, bon, là nous revenons à notre credo de tout le temps. Un pays où il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de contrôle, bon, que vous le même si on gonflait, rien ne dirait que ce qu'on aura gonflé, il reste nécessairement dans le sens de c'est pourquoi on l'a gonflé. Donc le problème c'est celui-là, il faut que nous arrivions à faire le sérieux au niveau du gouvernement, au niveau de la population, et nous rappelons que nous sommes une grande nation, nous sommes un grand État, et nous pouvons arriver à faire face à certains fléaux qui se présenteraient devant nous.
Docteur Richard, en guise de sensibilisation par rapport à la population qui vous suit en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, la première chose, je jette des fleurs à la quatrième direction qui attend, informe la population à travers les partenaires qui viennent autour d'elle. Donc, ce que le docteur Kemel avait dit, c'était vrai. C'est-à-dire, l'alerte était déjà donnée à partir du premier cas qu'on avait constaté. Deuxièmement, que la population ne croit pas que c'est un problème du ministère de la Santé publique seul. C'est un problème multisectoriel pour mettre fin à cette épidémie. Donc, tous les services qui sont concernés dans l'assainissement, dans le transport, par exemple, des immobilistes, etc., doivent entrer en jeu pour mettre fin à cette épidémie.
Merci. Merci, docteur Richard. Docteur Kebela, je reviens à vous. Un message en langue, en lingala, par exemple.
Bon, merci, Mingi. Na base boyoka ki makambo ministre alobaki ya fièvre jaune oyo eza na Congo Central pe wana Kinshasa e na province ya Congo. Me boyeba ke tango fièvre jaune ekoya ezali pe biso pe toyeba toza ba responsable ndenge nini na nzinga nzinga bandako na biso tobongisa sobo tiki nzinga nzinga bandako bobongisa angote tozo tika pemele ba owe ba kopa mike ba pune ya kala ta mbule eko beta bangungwana bazako na kacha mayango bazako bika bazako bota mingi ndeba ako swa biso bako pesi so malade me pona kupesa ifomu to malade angwana me pona tozo angote lo na kubibi sabino ke buto sala makasi bandale lo na nzinga nzinga bandako na biso na kacha bandako na biso
merci
to sala manso boto sotwe za la teta mbule ko beta ta maye ko tikala ndema yango bangungu basoko bota ba ko pisi so malade yo
merci merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre congolais c'est terminé pour ce soir. Bonne suite au programme sur la radio de la paix, au revoir.